Chapitre 6. Un Parisien visitant New York reste un Parisien. Un Parisien s'installant à New York reste un Parisien. Un Parisien né à New York reste un Parisien. Un Parisien restera un Parisien jusqu'à la fin des temps. Proverbe du quartier de New Montmartre. Cité unifiée de Nilopa. Les flics reprochaient aux fouineurs de ne jamais prendre de risques. Nombre d'entre eux, pourtant, furent blessés ou laissèrent leur vie dans leurs enquêtes. Être les cibles des plombeurs et de toutes sortes de criminels n'était pas l'apanage des flics. Pas grand monde au rayon lingerie du grand magasin. Quelques femmes de tous âges, quelques hommes égarés, quelques vendeuses reconnaissables à leur badge holographique. Une vague odeur de vase imprégnait l'air rafraîchi par des climatiseurs vétustes et bruyants. « Tu les vois ?» chuchota Théodore. La main posée sur la crosse de son tasse dans la poche de sa veste, Ganesh se redressa et jeta un coup d'œil par-dessus les portants et les rayons. Une femme blonde qui entrait dans une cabine lui retourna un regard outré. « Non. Il faut qu'on change de rayon, » marmonna Théo. « On a l'air de deux vicieux au milieu des petites culottes et des soutiens-gorges. Les vendeuses nous regardent d'un sale œil. Trop tôt, à mon avis. Nos poursuivants sont encore dans les parages. Je préfère être fusillé du regard par une vendeuse que recevoir une balle dans le crâne. Je suis pas pressé de mourir. Tu crois qu'ils vont se servir de nos biopuces pour nous pister ?»«
Probabilité 36%. »
En principe non, mais en principe aussi, le brouillage de la biopuce de Tom était inviolable. Ganesh repéra deux silhouettes sombres qui venaient de se glisser par l'entrée secondaire, située à quelques mètres de l'escalator. Les deux hommes s'arrêtaient fréquemment, pour observer l'espace entre chaque portant.
« Je les vois. »
« Ils ont l'air de savoir où ils vont. »
« Ils paraissent chercher. »
« On sait au moins qu'ils ne sont pas reliés à la fréquence de nos biopuces. »
« Ils viennent par là. Planque-toi. »
Ganesh se baissa près de Théo, l'index crispé sur la détente de son tasse. Son front frôla les culottes jetées en vrac dans un bac. Un claquement de talons domina le brouhaha du magasin et se rapprocha d'eux.
« You can't stay there !»
Une femme s'avançait vers eux, vêtue d'un tailleur néo-rétro coiffé d'un chignon serré qui donnait de la sévérité à son visage rond, presque lunaire.
« Responsable d'étage. Probabilité 69%. »
« Manquait plus que ça !»
soupira Théo entre ses lèvres serrées. Les traits de la femme changèrent brutalement, comme si elle avait arraché son masque.
« Vous êtes de Paris ?»«
Ça s'entend, non ?» répondit Théo à voix basse.
« Vous ne devriez pas rester là où je vais être obligé de prévenir la sécurité. »«
Comment vous appelez-vous »«
Le moment est mal choisi pour... »«
Comment ?» Ganesh se demanda où Théo voulait en venir. Il prit le risque de se relever une nouvelle fois et de balayer les environs du regard. Une dizaine de mètres à peine les séparaient désormais de leurs deux poursuivants.
Aldine.
Vous venez aussi de Paris, Aldine, n'est-ce pas?
Mes ancêtres sont originaires de Paris, mais je ne sais pas ce que ça...
Nous ne nous sommes pas planqués dans ce rayon pour ce que vous croyez. C'est une question de vie ou de mort, vous comprenez?
De vie ou de mort. Ils approchent,
murmura Ganesh. L'indécision de la femme se traduisit par un curieux mouvement de ses mains, comme si elle se les lavait sous le jet d'un robinet. Ses yeux affolés volaient dans tous les sens, comme des oiseaux en cage.
« Je ne peux pas... »«
De vie ou de mort, Aldine !»
Elle finit par acquiescer d'un mouvement de tête.
« Suivez-moi »
fit-elle à voix basse.
« Ne vous relevez surtout pas. On pourrait vous voir par-dessus les rayons. »
Elle les guida dans un dédale de rayonnage jusqu'à une porte en partie dissimulée par un rideau pourpre. Ganesh résista à la tentation de vérifier que les deux autres ne suivaient pas Aldine. La porte s'ouvrit par un déclic. Ils passèrent dans une pièce sombre imprégnée d'une odeur de linge et de détergent.
« Ici, vous serez tranquille, »
fit Aldine. Elle referma la porte. Théo se releva et se massa les reins.
« On est où ?»«
Dans la réserve. En tant que responsable du rayon lingerie, je suis la seule à avoir le code. »
« Merci du fond du cœur, Aldine. »
La ville de New York comptait un grand nombre de ressortissants originaires de Paris. La dernière grande vague d'immigration datait de quelques années avant la formation des cités unifiées, en des temps terribles, où les hordes sauvages venues de l'Est déferlaient sur l'ancienne région de France, détruisant tout sur leur passage. La ville de Paris ne disposant pas encore de ses remparts, prise de panique, une partie de la population s'était ruée dans les avions et bateaux à destination de l'Amérique. On s'était battu, piétiné, entretué sur les passerelles pour occuper les derniers sièges disponibles. On estime à 200 000 le nombre de candidats au départ ayant réussi à gagner le sol américain. 200 000 qui, malgré les interdictions municipales, se regroupèrent dans le même quartier, surnommé la New Montmartre, et continuèrent de s'exprimer dans leur langue maternelle. La communauté parisienne de New York formait un véritable état dans l'état, avec ses propres règles, ses restaurants clandestins, sa légendaire indiscipline et, surtout, une solidarité sans faille. La porte s'ouvrit et livra passage à Aldine. Ses cheveux dénoués révélaient sa douceur originelle et rehaussaient sa beauté.
« Vous pouvez y aller, il n'y a plus personne dans le magasin. »«
Pas trop tôt, » maugréa Théo. « On commençait à étouffer là-dedans. »
« J'ai dû attendre que tout le monde sorte. »«
Vous avez bien fait, Aldine, » intervint Ganesh.
« Pourquoi nous avez-vous aidés? Vous ne nous connaissez pas ?»
Aldine réfléchit quelques instants, les sourcils légèrement froncés.
« Je ne sais pas. Sans doute parce que vous êtes de Paris. »«
Combien de générations depuis que vos ancêtres sont arrivés à New York ?» demanda Théo.
« 6. Vous êtes de 7e génération, et ça suffit pour accorder votre confiance à 2 inconnus ?
Votre fibre parisienne est solidement implantée, dites-moi. » Aldine se tourna vers Ganesh avec un sourire qui dévoilait ses dents parfaites aux reflets nacrés.
« J'ai aussi lu dans ses yeux que je pouvais vous faire confiance. »
« Dans les yeux de Ganesh ?» Théo secoua la tête d'un air incrédule. « Vous êtes bien la seule à pouvoir lire quelque chose là-dedans. »«
Sois pas jaloux, Théo, » railla Ganesh.
« C'est toi qui aurais des raisons de l'être, si j'avais 30 balais de moins. Allons-y, on n'est pas encore tiré d'affaire. »
Ils traversèrent l'étage désormais désert. Les rayons s'alignaient dans la pénombre comme les rangs d'une armée de spectres figés.
« Votre histoire de vie ou de mort, c'était sérieux ?» demanda Aldine.
« Disons qu'il fallait éviter certaines rencontres, » répondit Ganesh.
« Vous essayez d'échapper aux flics ?
Mieux vaut pour vous en savoir le moins possible. »
« Tu sais vraiment parler aux femmes, toi ?» intervint Théo.
« Putain, c'est quoi ça ?»
Deux ombres s'étaient extirpées de la pénombre une dizaine de mètres devant eux. Ganesh discerna un éclat métallique.
« Attention !»
glapit Théo. Ganesh saisit Aldine par le poignet et la tira vers le rayon le plus proche. Une première détonation étouffée retentit, à peine perceptible. Le corps de la jeune femme lui échappa. Une deuxième détonation éclata. Il se jeta sur le côté tout en tirant son tasse. Des balles sifflèrent autour de lui. Il pressa sans interruption la détente de son arme. Les rayons balayèrent l'espace devant lui et atteignirent tour à tour les deux hommes, qui s'affaissèrent l'un après l'autre, neutralisés. Le silence retomba. L'échange n'avait pas duré plus de 3 secondes. Premier à se relever, Théodore se dirigea vers les corps secoués de spasmes de leurs poursuivants.
« Excellent réflexe, Ganesh. Nos deux anges gardiens sont HS. »
Ganesh chercha Aldine des yeux. Elle gisait 3 mètres plus loin. Une auréole sombre s'agrandissait autour de sa tête. Il se rapprocha du corps de la jeune femme, agité de soubresauts, et constata que la moitié de son cou avait été emportée.
« Aldine a pris une balle dans le cou, » murmura-t-il.
« Putain !» lâcha Théo. « Ces deux cinglés voulaient vraiment nous faire la peau !»
Il rejoignit Ganesh et se pencha à son tour sur Aldine.
« Appelons les urgences, » suggéra Ganesh. « Inutile, elle en a plus pour longtemps. On va tout de même pas la laisser crever comme ça. Tu sais ce qui se passera si on prévient les autorités ? Ils nous mettront au trou jusqu'à ce que l'affaire soit tirée au clair. Et même si on s'en sort, ça prendra plus d'une semaine. Une semaine ! On a mieux à faire, Ganesh. Sans elle, c'est nous qui serions allongés avec une balle dans la peau. Je regrette pour elle, sincèrement. Mais il faut arrêter ces putains d'ombres. Et on ne servira à rien si on reste coincé dans les bureaux de New York. Elle est en train de mourir. Aucune intervention d'aucune sorte n'y changera quoi que ce soit. »
Comme en écho aux propos de Théo, un long râle s'échappa des lèvres entrouvertes d'Aldine. Sa tête se tourna légèrement sur le côté, s'immobilisa. Ses yeux grands ouverts semblaient contempler pour l'éternité le plafond tendu d'obscurité.
« C'est fini. Allons-y. J'ai parfois l'impression que tu n'as pas de cœur, Théo. J'en ai un, comme toi, et il bat fort, crois-moi. Mais je ne le laisse pas prendre les décisions à ma place. Allez, on fout le camp !»
Je ne me lassais jamais de prendre le tube sous-marin entre Londres et New York, de contempler par les hublots des paysages fabuleux sans cesse renouvelés. La vie était intense au sein d'un océan que la plupart des spécialistes croyaient à jamais frapper de stérilité. Malgré leur incroyable inventivité en matière de destruction, les hommes n'étaient pas parvenus à éradiquer toute forme de vie sur cette minuscule planète Terre. On prétendait, par exemple,
que les baleines avaient disparu. Et pourtant, j'eus le rare privilège d'en apercevoir deux splendides spécimens au cours d'une traversée. Deux énormes baleines à bosse qui jouèrent un long moment le long du tube avant de disparaître dans les profondeurs océanes. Fasciné par leur gigantisme et leur grâce, je songeais qu'elles étaient les messagères d'une ère nouvelle, que notre planète sortirait bientôt de son long hiver nucléaire et que nous, les hommes, pourrions bientôt nous évader de ces prisons à ciel ouvert qu'on appelle les cités unifiées. Le ronronnement du moteur berçait le silence des profondeurs. Le tube était parti de New York 3 heures plus tôt, ramenant la délégation parisienne à l'échangeur océanique de Tamise Centrale, près de Douvres. Ganesh et Théo avaient regagné l'hôtel sans difficulté par les rues et les passerelles. Alaric Brognier ne leur avait rien dit lorsqu'il l'avait croisé dans le hall, mais son regard furibond annonçait qu'il n'échapperait pas à une entrevue musclée. Un adjoint vint les chercher alors qu'ils commençaient à s'assoupir sur leur siège, dans le compartiment réservé à la délégation. Alaric Brognier, assis à son bureau, les accueillit d'un sourire glacial et congédia l'adjoint d'un geste de la main. « On peut savoir où vous étiez passés, messieurs ?» attaqua le maire sans préambule. « Nous avons failli alerter les Gémines de Paris et créer un incident diplomatique avec la municipalité de New York. »
« Nous essayons seulement de glaner des renseignements pour les besoins de l'enquête, monsieur, » répondit Théo.
« En tant que membre de la délégation officielle, vous n'êtes pas censé disparaître sans prévenir !»
vitupéra Alaric Brognier.
« Bon Dieu, il faudrait que les fouineurs de Paris apprennent à se discipliner un peu! Avez-vous appris quelque chose, au moins ?»«
Rien de nouveau, hélas. À mon avis, les grubs de New York sont dans la même panade que nous. »
Le maire se tourna vers Ganesh. « Et vous, qu'en pensez-vous ? » ?»«
La même chose que Théodore, monsieur. Les New-Yorkais n'en savent pas davantage que nous sur les ombres.
Ils vous ont peut-être dissimulé certaines de leurs informations. »
Je ne crois pas, monsieur, intervint Théo. Ils étaient visiblement mortifiés de révéler l'étendue de leur ignorance.
Le regard du maire s'attarda un instant sur les poissons multicolores qui évoluaient de l'autre côté de la baie vitrée.
Je n'en suis pas aussi certain que vous, reprit-il. La municipalité de New York nous a semblé très agressive, très offensive lors du conseil. Sûre d'elle. Comme si elle disposait de cartes secrètes dans sa manche.
« Vous pensez que ces cartes secrètes ont un lien avec les ombres ?» demanda Ganesh.
« Je vais exprimer autrement la pensée de Ganesh, si vous permettez, monsieur, » déclara Théo. « Soupçonnez-vous les autorités de New York d'avoir elles-mêmes orchestré le phénomène des ombres pour prendre le pouvoir sur les deux autres cités ?»«
Difficile de se résoudre à concevoir une telle énormité, n'est-ce pas ?»
Le regard du maire revint se poser sur ses deux interlocuteurs. Difficile de croire qu'un responsable digne de ce nom provoquerait la mort de milliers d'innocents pour asseoir sa domination sur Nilopa. Je refuse d'y croire, même si je n'élimine pas totalement cette éventualité.
Je n'y crois pas non plus, approuva Théo. On trouvera un indice un jour ou l'autre qui nous mettra sur la piste, laquelle nous conduira tôt ou tard dans l'antre secrète des ombres. Un responsable digne de ce nom n'aurait jamais pris ce genre de risque,
sauf s'il avait à ses côtés les grubs de New York.
« Probabilité 46%. Élevé. »«
Le risque zéro n'existe pas, » dit Ganesh. « Il y a toujours des impondérables, des graines de chaos qui se glissent dans les rouages les mieux huilés. Que le responsable dont vous parlez exploite la situation à son avantage, c'est possible, et même probable. Mais qu'il en soit le cerveau, ça me paraît inconcevable. Le motif ne me convainc pas. On ne tue pas des milliers de gens pour prendre le pouvoir dans un conseil municipal. »
Ce ne serait pas la première fois dans la longue histoire de l'humanité qu'on immole des innocents sur l'autel du pouvoir, objecta le maire. Le pouvoir rend fou.
Vous, monsieur, seriez-vous prêt à ce genre d'atrocité pour assouvir votre soif de pouvoir?
Le maire garda un temps de silence, les yeux rivés sur la baie vitrée où dansaient des algues.
Je me garderai de considérer votre question comme offensante, jeune homme, finit-il par répondre d'une voix étrangement neutre. Je me contenterai de vous demander de mettre les bouchées doubles à votre retour. Il me faut des résultats, vous m'entendez? Il faut absolument que vous arrêtiez les ombres, d'où qu'elles viennent. Absolument.
Niveau de pollution 2. Niveau de pollution 2. Risque de contamination très faible. Risque de contamination très faible.
Théo retira son chapeau. Les rafales de vent jouèrent dans ses cheveux. Les nuages lourds et noirs sur Paris menaçaient de s'éventrer à tout moment. Les passants marchaient vite, courbés, pressés de se mettre à l'abri de l'averse qui s'annonçait.
« Ça fait du bien de retrouver ce bon vieux Paname, » s'exclama Théo.
New York ne me plaît pas, et je déteste le tube sous-marin.
Il avait passé le reste de son voyage à dormir, pendant que Ganesh, assis sur le siège voisin, voguait sur un flot tumultueux de pensées alimentées par les statistiques et les analyses de sa biopuce.
Le maire a l'air de penser que la municipalité de New York a un lien avec les ombres, Théo. Pourquoi tu lui as dit le contraire? Pourquoi tu ne lui as pas parlé de la puce que tu as trouvée dans le repère de la fin des temps?
Parce qu'on n'est sûr de rien. Et qu'il vaut mieux garder les coudées franches. Le secret, Ganesh. C'est la clé du succès.
Ni Tom ni un autre grub ne nous a recontactés avant notre départ.
Ils ont probablement eu un empêchement. Mais crois-moi, ils sauront nous trouver en cas de besoin.
Et les deux types qui nous ont coursés, par qui crois-tu qu'ils ont été envoyés?
Je suis trop crevé pour réfléchir, je rentre. À demain, Ganesh.
À dans 2 jours, tu veux dire? On nous a généreusement octroyé une journée de récup.
Théo s'éloigna sur le trottoir. Les premières gouttes de pluie tombaient, éparpillées par le vent, hérissant la surface de la Seine.
Arrête le thé et la méditation, Ganesh. Et fais plutôt la fête. C'est de ton âge.
Théo lâcha un petit rire, avant de disparaître dans une rue perpendiculaire. Amy appela sur le vieux téléphone de Ganesh à peine 2 minutes après qu'il eut regagné son appartement et retiré ses chaussures. Son visage s'afficha sur l'écran mural du salon, toujours aussi blonde et jolie. Il valida la fonction affichage du visage sur les écrans de sa correspondante.
« Tu es rentré, Ganesh ?»«
Pourquoi tu m'appelles, Amy ? Je croyais que c'était fini entre nous. »
« Je voulais savoir, enfin, si tu allais bien. J'ai appelé les jours précédents et comme je n'avais pas de réponse, je m'inquiétais.
Tu craignais que je me foute en l'air ?
Tu avais l'air si désespéré l'autre jour ?»
Malgré la fatigue, Ganesh tenta d'arborer une mine enjouée.
« J'étais à New York avec la délégation officielle de la mairie de Paris. Tu dis que tu t'inquiétais pour moi ?»«
Tu me manques, Ganesh. Je suis devenu fouineur, Amy. »
Je pensais... Enfin, je veux revivre avec toi.
Ganesh aurait dû déborder de joie. Mais les mots d'Amy le laissaient indifférent, comme si les sentiments étaient morts en lui.
Tu es consciente que la vie avec un fouineur n'est pas rose tous les jours? Que je peux être appelé sur une affaire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit? Que ma biopuce ne me fout jamais la paix?
Je sais, mais je ne supporte pas l'idée de ne plus te voir.
Toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ganesh tenta de gagner du temps.
Qu'est-ce que tu dirais d'aller dîner en ville ce soir?
J'en serais ravi. Autre chose qu'un curry si ça ne te fait rien.
D'accord, je laisse tomber ma panoplie indienne et je passe te prendre chez toi dans une petite demi-heure.
Je serai prête.
Oh Ganesh, je suis si...
Si quoi? Le visage d'Amy se métamorphosa soudain en un masque blême et grimaçant.
Il fait noir. J'ai du mal à...
Amy? La respiration de la jeune femme devint sifflante.
Je peux plus respirer. J'ai froid. Si froid.
Amy, qu'est-ce qui se passe, merde ?
Ganesh !
Elle poussa un râle semblable à celui d'Aldine dans le magasin de New York. Puis, la communication s'interrompit et son visage s'effaça de l'écran, qui recouvra sa transparence habituelle.
Que vaut la parole d'un chef de clan? Les uns disent qu'elle est sacrée, les autres qu'elle n'a pas plus de poids que la parole d'un enfant. J'affirme, quant à moi, que le chef de clan est un homme comme les autres, un menteur et un fourbe, qui ne tire sa légitimité que de la force de ses poings et de sa férocité.
Éphalos, prophète du noyau. Pays hors site. Entre la quête obsessionnelle de nourriture et de bois pour l'hiver et les incessantes guerres claniques, les réjouissances étaient plutôt rares à Trois-Aubes. Aussi, la vente à la criée de pauvres errants qui n'appartenaient à aucun clan et autres rescapés d'un clan décimé offrait-elle une excellente occasion à la population de se rassembler et de noyer sa morosité dans l'alcool frelaté de genièvre. La criée se tenait tous les 15 jours sous l'immense toit de tôle des bords de Seine, qui peinait à contenir la foule braillarde. La présentation des lots sur l'estrade déclenchait des cascades de commentaires, de rires, de quolibets ou de sifflets. Les jeunes femmes et les enfants entiers, intègres, suscitaient les enchères les plus acharnées, les plus spectaculaires. L'alcool coulant à flot, la soirée se terminait toujours par une bagarre homérique entre 2 factions et des combats à mort entre les firabras.
Puis chacun rentrait chez soi. Les acheteurs avec leurs esclaves neufs, les vendeurs avec un pécule qu'il leur fallait aussitôt mettre à l'abri des prédateurs. Les spectateurs avec leurs frustrations, leurs bosses et leurs gueules de bois. On peut dire que la vente à la criée était le seul lien social dans Trois Aubes, et que, dans ce rituel soigneusement entretenu par les chefs de clan, l'agglomération aurait sombré depuis longtemps dans le désespoir et le chaos.
Les heures ne te disent rien au sujet de Delune, Yosp? Ça fait presque 2 jours qu'il est parti.
L'inquiétude de Naya avait augmenté au point de la maintenir dans une nausée permanente. La voix vibrante de Yosp s'éleva du tas de branchages dans lequel il était enfoui.
« J'ai faim !»
Le regard de Naya vogua quelques instants sur l'eau agitée du fleuve. Elle en avait assez de regarder dans la direction de Trois Aubes, assez de fixer les herbes qui s'étaient refermées sur la silhouette de deux lunes.
« Ça t'arrive de penser à autre chose qu'à ton ventre »
maugréa-t-elle en lançant un caillou dans l'eau. Le buste de Yosp émergea entre les branchages. Naya fut une nouvelle fois frappée par sa difformité et l'ombre du malheur dans ses yeux globuleux. Des feuilles et des brindilles parsemaient les rares cheveux du petit homme, qui évoquaient des queues de rat, des antennes.
« Me regarde pas comme ça » grogna-t-elle. « J'ai l'impression que tu vas te jeter sur moi pour me manger. »«
Je vais pas te manger. Tu es vivante et je ne mange que les morts. »
Elle se leva, disciplina ses cheveux du plat de la main et épousseta ses vêtements.
« Ouais, ben moi j'ai pas du tout l'intention de crever ici. Il y a plein de bestioles qui viennent boire au fleuve. Je vais utiliser une balle, une seule. » Pour essayer d'en tuer une. Tant pis pour le bruit. Après tout, il y a probablement d'autres chasseurs dans le coin.
Yosp finit de s'extraire du tas de branches. Naya se demanda quel âge il pouvait avoir. Si son visage le désignait comme un vieillard, sa maigreur, la blancheur de sa peau, sa frayeur et son sexe étaient ceux d'un enfant.
« Les heures me disent que des hommes vont venir, »
déclara-t-il. « À cause du coup de feu ?»«
Je ne sais pas. » Il t'emmène et t'enferme dans un endroit tout noir. Ça sent mauvais. Tu as peur des animaux qui essaient de te mordre.
Naya s'efforça de sourire malgré la peur qui sinuait en elle, comme un lent poison.
Les heures ont de la suite dans les idées, on dirait. Bon, de toute façon, on va pas se laisser crever de faim. On n'aurait plus la force de se défendre, le ventre vide. On va guetter un animal. Tu viens?
J'ai froid et j'ai faim.
Ils se postèrent sur un rocher qui dominait la rive du fleuve. Naya déverrouilla le cran de sûreté de son pistolet et glissa son index dans le pontet. Yosp se recroquevilla sur lui-même pour offrir le moins de surface possible aux morsures du vent. La horde de nuages poussée par les rafales annonçait une nuit maussade et fraîche.
« C'est un bon endroit, » murmura Naya.
« On est contre le vent.
Les animaux ne nous sentiront pas. Faut que j'en touche un du premier coup, pas question que je gaspille mes 3 balles. »
Yosp se tendit.
« Les animaux, ils viennent ! Pas si fort, Yosp !
Je vois que dalle, moi !»«
Ils arrivent !»
répéta Yosp à voix basse.
« Ils sont grands et noirs de poils !»
Des fois, Yosp, je me demande si t'es pas... Une forme noire surgit des herbes en contrebas.
« Merde, un sanglier !»
L'animal leva le groin pour humer l'air avant de pousser un long grommellement. Un signal, sans doute, puisque la harde déboula quelques secondes plus tard. Une 20aine d'individus, mâles, femelles et marcassins.
On n'en voyait quasiment plus dans les environs du noyau,
souffla Naya à l'oreille de Yosp.
Il y en a de putain de balèzes! Leurs hurs font au moins 30 centimètres! Il n'y a pas intérêt à les emmerder, ceux-là! Le petit sur la gauche, il s'est isolé des autres. Sa viande sera plus tendre. Et puis, même si je le rate, il ne nous chargera pas. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai faim!
Chuchota Yosp.
Ça doit vouloir dire que t'es d'accord. Arrête de bouger, tu me déconcentres.
Naya rampa vers le bord du rocher, s'allongea, tendit son bras armé, visa un long moment le marcassin isolé, avant de presser la détente. La détonation éclata comme un coup de tonnerre. Les sangliers affolés s'égaillèrent dans les herbes et dans les buissons, leurs sabots martelant le sol. Naya repéra la forme inerte, allongée sur la grève du marcassin qu'elle avait tiré. Le sang maculait son poil, qui virait au noir.
« Je l'ai eu !»
s'exclama Naya.
« Je vais le chercher !»
Elle saisit Yosp par l'avant-bras et l'empêcha de bouger.
« Attends que les autres se soient éloignés pour sortir de ton trou. Les heures t'ont pas appris la patience, on dirait. Imagine que sa mère ou le mâle dominant rebrousse chemin et te fonce dessus. »
Yosp se débattit avec une vigueur surprenante au vu de son gabarit et se mit à hurler.
« Lasse-moi, je vais le chercher, j'ai faim! Lasse-moi, lasse-moi !»«
Arrête de hurler, putain, tu vas nous faire repérer !» Il continua de s'agiter et de crier.
« Lasse-moi, je vais le chercher !»«
Arrête, putain, m'oblige pas à te tirer dessus !» Au bord de la tétanie, Naya relâcha son emprise. « Et merde, fais ce que tu veux !»
Yosp grogna, se libéra de Naya, dont la respiration était devenue sifflante, et dévala le rocher.
« Ce dingue a failli m'étrangler !»
marmotta-t-elle. Le petit homme l'avait contrainte à un effort violent, à la limite de ses capacités. Elle s'arrêta pour récupérer.
« T'es passé où, deux lunes? Pourquoi tu m'as laissé seul avec ce monstre ?»
Dark considéra d'un œil satisfait la multitude braillarde qui se pressait entre les piliers de bois soutenant le toit de tôle. Il avait enroulé autour de son poignet l'extrémité de la corde passée au cou de son captif. Les torchères dispensaient un éclairage diffus et changeant, luttant comme elles le pouvaient contre la nuit naissante. Un peu plus loin, le fleuve Seine s'enroulait comme un grand serpent autour d'une langue de terre hérissée de roseaux mutants.
« Il y a du monde ce soir, la criée sera bonne. »
Gwenyl leva un œil réprobateur sur son homme.
« Tu peux pas le vendre, Dark, » dit-elle. « J'ai vu le serpent sur son bras. C'est un symbole de guérison. Ça porte malheur de s'en prendre à un guérisseur. Tu devrais lui rendre sa liberté. »
Dark enveloppa sa femme d'un regard teinté de mépris.
« Si tu la fermes pas tout de suite, Gwenyl, tu ferais mieux de rentrer à la maison. J'ai pas envie de t'entendre grogner jusqu'à la fin de la vente. »
Gwenyl ne se le tint pas pour dit. Dark et sa grande gueule ne l'avaient jamais impressionné, et ce n'était pas cette nuit qui changerait quoi que ce soit à l'affaire.
« Quelque chose me dit que tu devrais pas te mettre en travers du destin de ce garçon. »
Dark salua d'un hochement de tête des hommes qui tentaient de se ménager une bonne place sous le toit de tôle. Les lueurs de convoitise dans leurs yeux déjà chargés d'alcool ou de saloperies chimiques lui confirmaient que, pour une fois, il était dans le bon camp.
« C'est lui qui est venu se mettre en travers de mon destin. La chance est enfin venue frapper à ma porte et j'ai pas l'intention de la laisser passer. Et maintenant, Gwenyl, fous-moi la paix. »
Gwenyl plaça toute la force de sa conviction dans sa voix. Elle évoquait dans l'esprit de Delune l'une de ces déesses des légendes noires qui incarnaient la colère et la détermination.
« Je te préviens, si tu le vends, tu me retrouveras pas à la maison cette nuit. Pas question que je prenne sur moi une part de ta malédiction !»«
Raconte donc pas n'importe quoi !» répliqua Dark. « Quand t'entendras tinter les trobes, tu changeras d'avis, comme toutes les femmes !»
Gwenyl resserra les pans de sa cape en peau de rat. Elle n'était pas la seule à porter ce genre de vêtements à trois aubes.
« Traube, t'as que ce mot-là à la bouche. Ce satané fric vous rend tous fous à trois aubes. Je m'en vais. Compte plus sur moi pour réchauffer ta sale couenne cet hiver. »
Elle s'approcha de Delune et lui posa la main sur l'avant-bras.
« Je suis désolé, Delune. J'ai pas réussi à lui faire changer d'avis, à cette tête de mule. »«
Ah, parce qu'il s'appelle Delune en plus, » grogna Dark.
Delune posa les mains sur celles de Gwenyl, avec lenteur, pour ne pas provoquer un resserrement de la corde. Vous avez fait ce que vous avez pu, Gwenyl. Ne vous inquiétez pas. Mon maître Dandera dit que le destin prend parfois des tours inattendus, que la malchance peut à tout moment tourner en chance. Les yeux ronds et noirs de Gwenyl s'enfoncèrent dans ceux du captif. Il y lut une bienveillance qui lui rappela la tendresse du regard de sa mère. Il ne l'avait pas connue très longtemps, mais jamais il n'oublierait la source intarissable d'amour infini qu'elle déversait sur lui.
« Je suis sûr qu'il dirait aussi que ce qui vous paraît comme une grande chance peut être la pire des dévaines, mais ça, il y en a qui ont vraiment du mal à le comprendre. »«
Fiche le camp aux boucles là, Gwenyl !» vitupéra Dark. « Le crieur vient d'arriver, la vente va commencer. »
L'arrivée du crieur s'était traduite par une brusque augmentation du brouhaha. Drapé dans une manière de toge grise, il s'installa en haut d'un siège métallique pourvu d'une échelle et perché à 3 ou 4 mètres de hauteur. Son visage rougeau et bouffi indiquait qu'il avait tendance à abuser de la bonne chère et de l'alcool de genévrier.
« Au revoir, Delune, » murmura Gwenyl. « Tu es le fils que j'aurais aimé avoir. Que les ventes soient favorables.
Adieu, Gwenyl, et merci pour tout. » Elle se retourna à regret et se fraya un chemin dans la foule en direction des quartiers qui dominaient le fleuve. Un homme équipé d'un volumineux tambour posé sur son ventre prit place devant le siège du crieur.
« Satanée bonne femme, elle voit toujours tout en noir, » grogna Dark. Elle a presque réussi à me ficher le bourdon.
Ça y est, le crieur et le tambour sont en place. Ça va être à nous. Il m'a promis qu'on passerait dans les premiers, avant que les acheteurs n'aient dépensé tout leur fric. Tous les chefs de clan sont là.
Même celui de ton clan ? Demanda Delune.
Grard ! Cette outre toujours pleine qui prétend commander le clan du Père Soleil ? Évidemment qu'il est là. Il manque jamais une criée, il est là, assis au premier rang.
Delune suivit la direction indiquée par Dark et aperçut, assis sur l'un des sièges disposés en arc de cercle qui faisait face à la foule, un homme au visage ravagé par un cancer pernicieux. Certains os de son visage se devinaient au milieu des chairs rongées.
« Vilaine bobine, hein ? Prie le ciel pour que ce ne soit pas lui qui t'achète. La torture est son passe-temps préféré. Il est capable de prolonger une agonie pendant 4 semaines. »
Et le crieur, il appartient à quel clan ?
À aucun. Et à tous. L'idiot qui s'aviserait de l'injurier ou de l'agresser serait aussitôt coupé en petits morceaux et jeté en pâture au rat noir.
Un roulement prolongé de tambour instaura le silence sous le toit de tôle.
Bienvenue à la 10e et dernière criée de l'été, vénéré chef des clans,
déclara le crieur d'une voix forte.
Bienvenue à vous, habitants de Trois Aubes.
Une clameur lui répondit, suivi aussitôt d'un roulement de tambour qui ramena le calme.
« Des lots exceptionnels sont proposés à la vente ce soir. Vous seront présentés les 3 derniers survivants du clan du Hérisson, une femme et ses 2 enfants de 3 et 5 ans. »
Dark se pencha vers Delune.
« Tu parles, ils sont atteints de transgénose, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Il leur manque des doigts, la mère n'a qu'un sein, tout petit en plus, et ses enfants sont à la fois mâles et femelles. » « Moi, je dis qu'il y a tromperie sur la marchandise. »
Les commentaires allaient bon train autour d'eux.
« Vous serez également proposé un homme d'une 30aine d'années, en pleine force de l'âge, et pourvu de tous ses membres, »
poursuivit le crieur.
« Il appartient à une tribu sauvage et a été capturé au cours d'une battue organisée par le sieur Dronka, dans le cœur profond de la forêt. » Dronka et le lynx, son clan, ont amassé une petite fortune avec leurs expéditions. Sont devenus les principaux fournisseurs de la criée de Trois Aubes,
précisa Dark.
Vous sera présentée une famille entière, les parents et les 4 enfants, proposés à la criée par le respectable clan de la Sauterelle. Cette famille n'a pas honoré la dette qu'elle avait contractée auprès du chef de son clan au début de l'hiver dernier. Le clan a donc décidé de la vendre en un lot indivisible, en espérant que l'argent récolté permettra de rembourser la dette. « Faut jamais emprunter le moindre trobe à un chef de clan, c'est le début des emmerdements, »
expliqua Dark.
« Ces pauvres bougres n'ont plus que la peau sur les os. Moi, je dis que la Sauterelle n'en tirera pas 50 trobes. »« Vous verrez ensuite une jeune fille entière, parfaitement proportionnée. Dernière rescapée d'une famille errante, belle comme le jour et saine comme un habitant des cités unifiées. Elle sera le clou de notre criée, et je rassure tout de suite son futur acheteur, elle ne sera réclamée par aucun clan. »
« Jusqu'à maintenant, c'était toi le clou de la vente. Ce salopard de crieur n'a vraiment aucune parole. »
Un vent d'inquiétude se leva en Delune, qui se demanda ce qu'était devenu Naya. Il regrettait de l'avoir laissée seule en compagnie de Yosp. Il aurait dû l'écouter. Dandera répétait souvent qu'il fallait écouter les femmes.
« Cette fille, vous savez d'où elle vient ?»«
Jamais entendu parler. Elle a dû être mise en vente juste avant le début de la criée. »
Un roulement de tambour rétablit le silence.
« Vous verrez enfin un jeune homme venu d'une autre agglomération en parfaite santé et tatoué d'un serpent, symbole de connaissance et de guérison dans la plupart des traditions. Un lot, là encore, fabuleux. Puis, nous finirons la vente avec plusieurs lots de moindre importance. Et maintenant, vénéré chef de clan et habitant de Trois Aubes, que débute la dernière criée de l'été !»
Un tonnerre d'applaudissements et de vociférations ponctua le discours du crieur. Des populations éparses vivaient au cœur des forêts profondes qui recouvraient peu à peu le pays hors-site. Elles vivaient de chasse et de cueillette, comme dans les temps d'avant les cités. Comme la végétation qui s'était adaptée au vent nucléaire et au changement climatique formait un épais bouclier qui filtrait les rayons brûlants du soleil et les particules nocives, les tribus étaient finalement mieux protégées des radiations et autres pollutions que les habitants de Trois Aubes. On relevait moins de tares physiques chez les sauvages. Leur robustesse et leur résistance en faisaient des proies très recherchées. Comme bon nombre d'hommes des bords du fleuve étaient frappés de stérilité, on utilisait les sauvages comme reproducteurs.
en espérant que leurs gènes relativement sains éloigneraient le spectre de la dégénérescence qui menaçait les Orsites. Les tribus n'étaient pas belliqueuses et, tels de petits animaux craignant les prédateurs, vivaient dans une alerte et une tension permanente, qui ne facilitaient ni leur localisation ni leur capture.
Du calme, Yosp, tu vas t'étouffer. On dirait que t'as pas mangé depuis plus de 6 mois. Tu aurais pu au moins attendre que je réchauffe les restes sur les braises. Bouffer de la viande crue, c'est vraiment dégueulasse.
Incroyable ce qu'un si petit corps était capable d'ingurgiter en aussi peu de temps. Yosp essuya sa bouche grasse et sanguinolente d'un revers de main. Naya avait décidé de faire un feu bien qu'il augmente considérablement leurs chances d'être repérés.
J'ai froid.
T'es pénible comme mec. Quand t'as pas faim, t'as froid. Et quand t'as pas froid, t'as faim.
C'est vrai que les nuits sont de plus en plus froides. T'as vu les étoiles, comme elles scintillent? L'hiver va pas tarder à descendre. Je me demande ce qui a bien pu arriver à deux lunes. On n'aurait jamais dû se séparer.
L'homme méchant, il veut le tuer.
Ça, tu me l'as déjà dit, Yosp. Ce que je voudrais savoir, c'est s'il le tue ou pas.
Yosp arracha d'un coup de dent un morceau de viande encore saignant.
Des fois, les heures me le disent. Des fois, elles me le disent pas. Les heures viennent et s'en vont quand elles en ont envie.
Naya le regarda baffré avec un dégoût grandissant. C'est pas plus mal, remarque. Si on savait à l'avance tout ce qui va nous arriver, il y aurait plus beaucoup d'intérêt à vivre. J'espère que Delune n'est pas... Ça me rendrait vraiment... Pourvu qu'il ne soit pas...
Des craquements retentirent dans les herbes environnantes. Naya se redressa, pistolet en main, et scruta les ténèbres qui se resserraient autour d'eux. Un fol espoir l'envahit.
Delune ?
Les hommes, ils viennent te prendre. Ils sont nombreux, tu ne pourras pas leur échapper.
Bella Yosp.
Qu'est-ce que tu racontes encore? Hein? C'est quoi ça?
Des silhouettes jaillirent soudain des herbes. Des hommes et des femmes vêtus de pagnes de cuir maculés de terre, armés d'arcs, de lances, de pierres. Ils s'immobilisèrent à quelques mètres de Yosp et de Naya.
D'où ils sortent, ceux-là? Qu'est-ce que vous voulez?
Ils se contentèrent de regarder Naya et Yosp en silence. Difficile de deviner leurs intentions dans leur regard inexpressif.
Pourquoi ils disent rien?
D'un coup, ils se mirent en mouvement et convergèrent vers la jeune femme. Elle n'eut pas le temps de presser la détente de son pistolet. Une pierre la frappa à la tempe. Ses jambes flageolèrent et se dérobèrent sous elle. Elle eut beau résister, elle bascula sur la terre de la grève et sentit des souffles et des mains sur sa peau. Elle voulut appeler au secours, mais aucun son ne franchit le seuil de ses lèvres.
Le crieur fendit la foule et se dirigea vers Dark, toujours drapé dans sa toge, gonflé d'importance.
450 troupes, Dark. C'est plus que tu en attendais, non? J'aurais pu en retirer encore plus si t'avais pas présenté cette fille comme le clou de la criée.
La foule désertait peu à peu la criée. Les torchères presque éteintes, une nuit noire était tombée sur 3 aubes.
La fille est partie à 600, ton lot à 450. Tout le monde est content?
Dit le crieur.
Paie-moi ce que tu me dois. 45 troubles.
On n'avait pas parlé de ça, crieur, s'insurgea Dark.
Je prends 10% de chaque vente, c'est la règle. Ceux qui la respectent pas finissent dans le fossé avec un sourire au cou. Faudra que t'attendes que j'ai touché l'argent. Ça devrait pas te poser de problème. C'est le chef de ton clan qui a acheté ton lot. Je te laisse jusqu'à demain soir pour me payer mon dû. Tu l'auras, crieur, assura Dark.
Delune vit qu'il transpirait la peur.
« Bien !»
Le crieur s'éloignait de sa démarche pesante.
« Voilà Grar, il vient chercher son lot. Je vous laisse entre vous. N'oublie pas, demain soir !»
Grar s'extirpa d'un petit groupe, s'approcha de Dark et de son captif, fixa Delune un long moment avec un regard de chasseur. « C'était donc toi, Dark ?» qui proposait ce garçon à la vente. Sa voix roulait comme un fracas d'orage. De près, son visage ressemblait à un paysage dévasté, à un champ de ruines. Des veines énormes gonflaient à chaque respiration de chaque côté de son cou. Dark s'inclina respectueusement.
« Ravi en tout cas qu'il t'ait plu, vénéré Grar.
Comment est-il tombé entre tes misérables pattes ?»«
La chance !» Il a essayé de me voler mes lunettes de soleil, je l'ai rattrapé, j'ai compris qu'il n'était pas sous la protection d'un clan de 3 aubes, alors je l'ai capturé.
Les yeux incisifs de Grar se promenèrent sur deux lunes.
C'est vrai, ce qu'il dit.
À peu près, sauf qu'il ne m'a pas rattrapé tout seul.
Tu viens d'où ?
D'une agglomération plus au sud. Je suis un guérisseur du clan du Haut-Lieu.
Pourquoi tu t'es mis hors de la protection de ton clan ?
Chez nous, les guérisseurs n'ont pas besoin de protection, ils sont sacrés. Dark lâcha un rire tonitruant.
T'es plus chez toi, mon garçon ! S'exclama-t-il. Tu appartiens maintenant au vénéré chef du clan du Perce-Oreille !
Grar lui décocha un regard assassin.
Tu l'ouvres, si je te dis de l'ouvrir, Dark. Pas avant.
Alors, pourquoi es-tu parti de chez toi ?
J'avais envie de voir du pays, répondit Delune.
C'est pas une raison, ça. T'es pas du genre causant, hein ? Pas grave, j'ai tout le temps de te faire parler. Tout le temps.
Il éclata de rire à son tour.
Dark, tu me l'amènes chez moi. Et fais en sorte qu'il arrive en bonne santé. La règle de la criée, Grar, c'est que tu me payes avant. Les règles à trois aubes, ce sont les chefs des clans qui les fixent. Je te paierai quand tu me l'auras livré. Le faut avant demain soir. Je dois donner sa part au crieur.
Grar sourit, élargissant quelques-unes de ses plaies et dévoilant d'autres os en bas de son visage.
Arrête de trembler comme une feuille d'arc. Je te dis que tu l'auras, ton fric. T'as plus confiance dans le vénéré chef de ton clan ?
C'est juste qu'un marché est un marché, Grar,
plaida Dark.
Si les chefs des clans eux-mêmes respectaient plus les règles, alors ce serait un beau bordel à trois aubes.
Grar se dirigea vers le petit groupe qui l'attendait, d'autres chefs de clan sans doute.
Je t'attends tout à l'heure à la maison avec mon lot. J'ai une ou deux affaires à régler avant. Fais bien attention à lui, Dark. Il m'appartient maintenant. Tu répondras de sa tête.
Dark tira la corde d'un coup sec.
En route !
Gronda-t-il.
N'oublie pas qu'au moindre mouvement de travers, l'étranglette se resserra sur ton cou.
J'ai l'impression que c'est sur ton cou que la corde se resserre, murmura Delune.
Ferme-la ! Et avance droit devant toi !